Mon quartier La Source, à Orléans. On vous a certainement dit que c'est un quartier sensible, difficile, classé zone prioritaire.
Aujourd'hui, on est en direct de La Source, c'est ça mon gars ?
Conçue dans les années 60, La Source veut être la cité pilote du 21e siècle. Une cité faite pour les piétons. Sa construction oscillera entre préservation du cadre naturel et construction de logements en grand nombre. Ainsi, le quartier possède plusieurs paysages. Jusqu'au paradoxe, comme ici, sur ce lieu appelé La Dalle, un univers de béton pour piétons.
Mais du coup, le quartier, ouais, tu m'as dit, il est grand.
Ouais.
Ça va de où à peu près ?
En gros, de l'arrêt tram Cheikh Posto. Non, je suis un ouf. De l'Indien jusqu'à la Bolière. Même en large, tu vois, c'est long.
Un quartier de 17 000 habitants excentré est situé à 10 km du centre-ville orléanais.
Voilà. Du coup, c'est différent un peu quand t'habites ici. En plus, c'est grave loin du centre-ville et tout. C'est différent de l'Argonne, la Madeleine, tous les checks comme ça, non ?
Tu vois, les autres quartiers, ils sont bien un peu. T'as vu, ils sont à côté de la ville, tout ça. On a au moins 30 minutes en tram.
France Inter, Interclasse.
Qui dit parler veut dire quelque part le besoin d'être entendu. Parce que si on parle devant un mur, c'est pas la même chose que de parler devant une personne. Il faut différencier l'attitude et la personnalité. La personnalité, c'est ce que je suis. Mon attitude, ça dépend de qui tu es. Vous en faut pas s'enregistrer, c'est s'enregistrer. Vous avez toutes les punchlines ici. C'est le coffre-fort des punchlines. On va s'amuser.
France Inter, Interclasse.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ici au lycée professionnel Paul Gauguin, dans le quartier de La Source, à Orléans, un quartier en périphérie du centre-ville. Il y a là des immeubles de taille moyenne. C'est un quartier qui a été rénové, mais qui ressemble à mains égards à beaucoup de quartiers très populaires, excentrés, comme volontairement coupés des centres-villes. Ici, nous avons rencontré Divine, Nicolas, Gladys, Awa, Fatima, Lina, Nino, Valentin, Christelle, Sarah, je pourrais pas les présenter tous. Ils se préparent ici à leur futur métier de maître d'hôtel, de commerciaux, de chargés de clientèle, plutôt des métiers de service. Ici, on accueille aussi des mineurs étrangers isolés. Trois d'entre eux ont d'ailleurs accepté de nous raconter comment ils ont franchi les frontières clandestinement, l'un d'eux traversant même la mer sur un canot de fortune. Alors l'idée de la rencontre cette année avec les élèves, c'était d'interroger la question de la solidarité et aussi des symboles nationaux partagés. Alors on a débarqué avec nos micros, les gros, les petits, on a échangé, on a débattu et puis on a construit ce qu'on vous présente là. C'est parti.
France Inter, Interclasse, lycée Paul Gauguin à Orléans.
Le thème qu'on avait choisi, c'était le vivre ensemble. Donc là, on va en parler avec Kyria, Gladys et Franck. Et on va parler notamment d'un des sujets d'actualité qui a marqué cette année qu'on a vécu ensemble. C'est la mort de George Floyd aux États-Unis, la mort de cet homme noir tué par un blanc. On n'est pas exactement dans le vivre ensemble, là.
Ça reste triste, mais moi, au fond, ça m'a pas vraiment choqué. Même si mourir de cette manière-là, même si le genou du policier, après c'est les États-Unis, on en a l'habitude. Donc.
Et tu vois un parallèle avec la France ? Toi par exemple, t'es noir,
oui.
D'origine congolaise. Est-ce que être noir pour toi c'est, je sais pas, quelque chose de particulier dans un pays comme la France ?
Vivre à Paris et aller vivre à la campagne pour un noir, c'est pas exactement la même chose.
Qu'est-ce qui est plus difficile à ton avis ?
Le plus difficile, ça va être la campagne. Et c'est pas forcément de la faute des habitants de la campagne. C'est une question d'habitude. Il y a deux ou trois ans, on était partis dans un championnat de France de l'UNSS de basket. Et c'était dans le Limousin. C'était un endroit, c'était vraiment à la campagne. Et on est partis dans un Carrefour Express. Et en entrant, tout le monde était choqué de nous voir. Comme s'il s'y attendait pas. Donc c'était vraiment la première fois de ma vie en France
que tu ressentais.
Que je ressens qu'il y a un problème, que je suis pas très très à l'aise.
Et t'as compris tout de suite le problème ?
Je l'ai compris et tout de suite je me suis dit c'est un peu normal. C'est comme si vous allez en Afrique dans un village, perdu, les gens vont être étonnés de vous voir. Cette différence-là, la plupart des gens le voient à la télé, le voir en face à face, ça fait toujours une réaction. Donc, moi, en soi, j'ai peut-être compris cette réaction, mais d'un autre côté, j'ai juste trouvé ça dommage parce que malgré tout ça, aujourd'hui, on est en 2020, la technologie a évolué. Donc, être encore étonné de voir des Noirs, c'est dommage pour moi.
Vous en parlez de tout ça entre vous ? Toi, t'es Noir, Franck, toi, t'es Blanc.
Oui.
Vous en parlez tous les deux, par exemple ?
Nous, franchement, des fois, on se taquine. Espèce de Mamadou, Franck le Bœuf, enfin, des petits surnoms comme ça. Mais c'est, pour nous, c'est sans arrière-pensée. Franchement, pour nous, c'est juste dans le mood et c'est tout.
Pour ma part, c'est pas un problème. Je me suis toujours très bien entendu avec Gladys ou Kyria, par exemple. On n'a jamais eu de différence, voilà. On a toujours tout pris à la rigolade et...
Kyria, est-ce que t'as déjà senti qu'être noir, ça pouvait être un problème?
Hier, par exemple, je suis allée dans un live des Anglais et ils m'ont traité d'esclave. Ou même, je vais te tuer et te violer, par exemple. Après moi, ça m'a pas touchée personnellement, mais...
C'est... Parce que t'étais noir?
Oui. Et j'étais la seule noire dans le live.
La plupart des gens aujourd'hui ont du mal à accepter la différence des autres, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Noirs, ça peut très bien se passer avec des Chinois, où il y a quelques temps, les gens rejetaient plus les Chinois. On se disait que c'est à cause d'eux qu'il y a eu le corona, patati patati. Donc les gens devenaient plus distants envers les Chinois. Dès qu'il y a une minorité, c'est la minorité qui est bafouée, quoi.
Qu'est-ce que tu changerais ? Allez, t'as une baguette magique, qu'est-ce que tu changes ?
Bah, que déjà tout le monde s'accepte comme il est. Et que, bah,
ça, c'est un doux rêve un peu, non ? On sait que c'est difficile, on sait que c'est impossible.
Vous m'avez parlé que j'avais une baguette magique. Mais oui, c'est compliqué. Donc on doit s'accepter tel qu'on est, sinon le monde n'avancera pas.
Et malgré tout, qu'on soit noir, blanc, violet, rouge, je sais pas quoi, on a tous le même sang. C'est un peu bête, en fait, le racisme, clairement.
C'est un peu bête, le racisme.
Oui.
Ouais, c'est une bonne phrase.
Lina et Nino, vous avez choisi de parler solidarité, comme tous les élèves de votre classe, au travers de la présentation d'une association, une association qui est Faubourg Madeleine à Orléans et qui s'adresse aux plus démunis. On va pousser la porte, Lina ?
Oui, cette association, elle s'appelle le Relais Orléanais. Chaque midi, les bénévoles du relais servent 200 repas. Pour Roland Canal, l'ancien président de l'association, le bon fonctionnement du relais repose surtout sur ses bénévoles.
Parce qu'en fait, les bénévoles constituent un élément essentiel du Relais Orléanais. Alors, dans la typologie de nos bénévoles, on retrouve beaucoup, on va le dire, de retraités, un petit peu comme moi, beaucoup de personnel féminin aussi. Mais disons que le gros bataillon, encore une fois, c'est dans la cuisine.
Après, par rapport au repas, est-ce qu'il y a un contrôle alimentaire qui est effectué ?
Bah, bien entendu, on ne fait pas n'importe quoi. Il convient de respecter les normes alimentaires. Hein. Donc, on a des produits où on doit vérifier les dates d'utilisation, de congélation et de ce type. Nous avons deux cuisinières professionnelles. Donc, ici, bien entendu, on respecte ce qui doit être respecté. Ça fait 35 ans que le Relais Orléanais existe et qui sert des repas.
Quel est le type de bénéficiaire le plus récurrent qui vient profiter de cet endroit ?
On a une partie de public qui sont des gens qui ont une vie ordinaire, mais qui sont isolés. Et donc, ils viennent chercher chez nous une forme de réconfort, une forme de sociabilité. C'est des gens qui ont des petites retraites et qui peuvent être seuls et vivre chez eux. Et donc, ils viennent au relais. Et c'est pas là, vous voyez, la précarité financière, c'est plus la précarité d'isolement et des choses de ce type. Donc, il y a des, normalement, l'objectif, c'est de les aider à se reprendre en main, hein. Le relais orléanais est un moment d'accompagnement. L'objectif, c'est qu'ils ne passent pas des années ici. Notre objectif premier, c'est qu'ils partent le plus rapidement possible parce que ça signifie qu'ils se sont remis debout et qu'ils ont retrouvé une situation. Mais il y a des gens qui nous fréquentent depuis des années parce que c'est un peu leur seconde maison. Donc on peut trouver des publics variés et divers, mais enfin, c'est quand même des publics en difficulté. Hein.
Parmi ces bénévoles, on a eu un vrai coup de cœur pour Muguette. Ce qui nous a touché, c'est son dynamisme et sa générosité. Les années passent et comme chaque mercredi, Muguette est là.
Je suis arrivée à la retraite et puis je voulais quand même donner un peu de temps parce que j'aime beaucoup bouger. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et puis ça fait déjà 20 ans que je suis ici. Les journées à la maison, c'est long.
Sur les murs du relais, on peut voir des paysages d'Afrique. Ce sont des peintures qui ont été réalisées par des bénéficiaires du relais. Liliane, elle, vient de beaucoup moins loin. Elle habite le quartier. Ce qu'elle vient chercher, ce sont des personnes à qui parler.
C'est pas toujours facile, bien sûr, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'allées et venues. On est content de trouver le relais quand on arrive et qu'on est démuni, qu'on a pas mal de problèmes, qui malheureusement ne se résout pas tout seul. Et puis, on approche timidement, bien sûr, parce que c'est pas évident. Et puis, d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui vient, vous venez pourquoi? Alors, on explique pourquoi on vient, tant bien que mal, parce que des fois, on a honte de notre situation, même si on n'a pas volé, même si on n'a pas pillé, mais c'est comme ça, on a honte. Et puis, petit à petit, on commence à nouer connaissance, et puis, on ose dire pourquoi on vient. Et là, on est content de voir des gens qui nous font un grand sourire, comme Moussa ou Olivier. Et on se dit, là, ça y est, c'est gagné, on va pouvoir parler, vider notre sac. Et là, on rentre dans un bureau et puis on explique notre situation. Et puis, en espérant ressortir content d'avoir pu parler à quelqu'un d'important. Enfin, quand je dis important, par rapport à nous, quoi. Et puis après, on vous aide à vous faire toutes les démarches. Je crois que le plus difficile, c'est pas les démarches par proprement dit. Par rapport aux gens qui vivent ici, c'est la communication avec les gens qui sont comme nous. Parce que c'est pas toujours facile de s'entendre. Je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, ça s'est disputé. C'était un petit peu chaud quand même. Et c'est ça le plus difficile à vivre. Parce qu'il y a des gens qui s'adaptent malheureusement pas à cette situation. Et ça, c'est...
Donc quand vous venez ici, vous êtes en confiance?
Ah oui, moi je connais bien les gens. Je passe assez facilement parmi tous les gens. On est en confiance. Dans notre malheur, on a de la chance. Bon, c'est pas mon rêve, hein, bien sûr. Mon rêve, c'est d'avoir une vie normale. Mais quand on n'a rien, qu'on se retrouve à la rue, on est très content d'être là et très content d'avoir des gens pour parler. Parce que le but, en fait, c'est de parler déjà. C'est pas de. On vient pour parler pour notre situation qui n'est pas très, très facile, quoi.
Quel jour et à quelle période de la journée vous venez le plus régulièrement ici?
Moi je vais vous dire, ça ouvre à 8h30, je suis là 8h30 jusqu'à la fermeture. C'est notre maison. Vous avez votre maison, nous on a la nôtre, c'est ici.
Une nouvelle page va s'ouvrir pour le relais orléanais. Avec de nouveaux locaux, plus d'espace et de confort pour les bénévoles et les bénéficiaires, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux.
Nino, Lina, vous avez donc découvert tout un monde. Quelle a été votre impression lorsque vous avez poussé la porte de cet endroit?
Alors, tout d'abord, moi, j'ai été un peu gêné. J'ai senti une ambiance qui était assez lourde, pesante. Je ne me sentais pas dans mon élément, si je puis dire. Une fois être sorti du relais l'année, la première pensée qui m'est venue était j'avais envie de partager quelque chose avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que, en interagissant avec Liliane, je me suis rendu compte que c'était une personne qui avait un grand cœur. C'est pour ça que, voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de devenir bénévole et de soutenir ces personnes-là, de les accompagner.
À reprendre davantage pied dans la société?
Exactement.
Lina, c'est une impression que tu as eue, toi aussi? Peut-être quelque chose d'un petit peu difficile au départ, mais au final d'assez fort et chaleureux?
J'ai eu aussi l'impression de voir des personnes qui ont aussi un grand cœur, qui sont là pour aider les personnes qui sont démunies, qui sont dans le besoin, surtout des familles.
Dans tes projets personnels, tu évoques souvent la création d'une association, une association un peu refuge pour les femmes qui auraient des difficultés. Quelque part, ça t'a inspiré, cette visite dans le relais orléanais?
En fait, c'est à peu près le même système pour surmonter cette sorte de traumatisme.
Nino, tu disais tout à l'heure qu'en ouvrant la porte, tu t'étais senti quelque part un peu mal, parce que l'atmosphère était lourde. C'était aussi pour toi la première fois que tu découvrais un univers, celui de la grande précarité.
C'est ça. Moi, j'ai été assez ému de voir ces personnes qui étaient dans le besoin. Ça m'a fait mal personnellement de voir ces gens qui sont gentils, qui partagent. Nous, les jeunes, c'est assez inconnu parce qu'en fait, on ne pense pas forcément à s'y intéresser. C'est pour ça que moi, quand j'expliquais tout à l'heure à quel point ça m'avait touché, j'avais envie de, à mon tour, partager quelque chose avec ces gens.
Alors, c'était la première fois que vous faisiez un reportage en radio. Quelle impression, quel souvenir vous en garderez?
Moi, personnellement, j'aurais le plaisir de dire que plus tard, voilà, j'ai travaillé avec France Inter pour un projet interclasse avec les deux MRC2. J'ai interviewé des gens, Liliane, Muguette, dont je me souviendrai, qui était au Relais Orléanais. Très fier d'avoir partagé ça avec l'équipe.
Et tout de suite, sur France Inter, voici Rapper Weed par Saron Boogie.
Clear skies, white walls, sunset in my review as the night falls. Listening to old Kanye, feeling like new Kanye. My life in harmony like 2-1, yeah, it's okay. I shouldn't have to tell you that I've been here. This is not a gimmick, please don't push me to my limit. I'll be getting tired of being friendly. I go hard until my tank is empty. I'm not really in the competition, no. Hating me won't ever get you mentioned, no. I stay in my lane, oh, I stay in my lane. I be driving new terrain, but my view never changed. Lil' mama flies a plane, she got that G5. Here, thoughts of me dropping a top, gon' make me handle the wheel. I'll even smoke in his gill, she bout to roll up again. But we ain't even getting high no more. Now we ain't even getting high no more.
That blunt still ain't went out, You lose your patience, say fuck it, just put that shit out. And lately we both ain't been out, been hiding up in our consciousness. Try to tell me be moderate, shit, we boosting our tolerance, Let's smoke the papers that read our fate till we know the pages, Let's know the matrix that hide the truth, we not interfacing. Running through your days with no steady pacing. Feel you racing to your own demise, we ain't finna make it, I keep on saying, I call, you call, both calls get missed, Won't call you back, I text you piss, I keep the roach, I smoke the tips, I hurt my thumb, I burn my lips and shit. I need the smoke to be straight, I gotta get me some bands. I cop the eighth like every day, borrow that shit from my man. Till I forgot to go pay, he told me never again. Now I ain't even getting high no more.
Lil' mama flies a plane, she got that G5. Here, thoughts of me dropping the top, gon' make me handle the wheel. I'll even smoke in his kill, she bout to roll up again. But we ain't even getting high no more.
Donc on arrive ici dans la cour du lycée Paul Gauguin où on va retrouver quatre élèves de terminale qui sont avec trois mineurs isolés et ils vont les interviewer. C'est des mineurs isolés qui sont arrivés en France pour la plupart l'an dernier et auxquels on va faire raconter un peu leur expérience scolaire, leur expérience du confinement et essayer de savoir aussi s'ils acceptent de nous raconter comment et pourquoi ils sont arrivés en France.
C'était compliqué pour la langue, je ne pouvais pas parler le français parce que je n'ai jamais été à l'école dans mon pays. Et du coup, je suis arrivé ici. J'ai commencé par des classes d'accueil pour avoir la base. Je suis au fin d'année de mon CAP. Je peux dire là, ça commence à aller un peu. Donc voilà, par rapport avant quoi.
Et donc du coup, avec cette période de confinement, comment tu as fait pour organiser ton travail au niveau de ton CAP, étant donné que tu n'étais pas au lycée, etc.
Moi, je suis dans un hôtel, du coup... C'est un peu compliqué pour voir les cours en distance. Le wifi de là-bas, c'était pas bien. Tu es toute seule dans ta chambre. Et une petite chambre comme ça, et qu'il y a la télé, même pas d'internet. Voilà. J'ai pas d'autres amis aussi pour parler, ni rien. Donc ça a été très très compliqué en fait. Hein. Ça a été très très compliqué. Franchement, ça c'est des prisons quoi en fait. C'est comme des prisons en fait.
Après, on se posait une question aussi pour savoir quelle émotion tu as ressenti en quittant ton pays.
Je ne voyais pas l'avenir devant moi, quoi, en fait. Parce que, imaginez, le moment que j'ai quitté au pays, je ne savais pas lire et écrire. Là, maintenant, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé aussi à parler.
En tout cas, tu sais que tu as ta place ici. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous aussi. Ouais.
Bouba, 18 ans, quelle est ta nationalité?
Moi, je suis guinéen, de Guinée-Conakry. Moi, je suis en formation bac pro. Je suis en première espèce au lycée Paul Gauguin.
Et ton arrivée au lycée, le monde, les personnes, c'était compliqué, le regard, le...
C'était un peu compliqué, mais je m'en fous un petit peu, tu vois.
Oui.
Et parce que c'est pas ce qui m'intéresse de plus. Ceux qui viennent d'arriver, ils nous traitent des blédards. Vu que nous, on est venus ici, on n'a pas eu la chance d'être nés ici. Après, ils nous traitent avec notre accent, tout ça. Mais moi, je ne calcule pas trop. Et ce qui m'intéresse, c'est ma vie. Ça m'est arrivé un jour aussi, c'était dans le tram. Il y avait une femme qui était assise à côté de moi. Elle a fermé son nez comme ça. Je lui ai dit, madame, pourquoi vous faites ça? Après, elle n'a rien dit. C'est du racisme, ça. Je dis ça à la dame. Ça m'a touché au fond du cœur. Mais je ne pouvais rien faire.
Comment ça s'est passé, ton confinement, pour ton bac?
Je n'avais pas tout ce qu'il faut pour travailler à la maison. Et c'est vrai que quand tu vis sans tes parents à côté, c'est stressant. Ouais, c'était compliqué. On était quatre dans l'appartement. Personne ne parle à l'autre, et voilà.
Qu'est-ce qui t'a fait perdre le moral le plus pendant cette période?
Quand je pense à mes parents, ouais, ça me donne larmes aux yeux. Parce que c'était compliqué. S'il y avait au moins mes parents à mes côtés, ça allait tourner autrement. Ouais.
C'était plus dur pendant le confinement de garder le contact?
Je ne l'ai même pas eu au téléphone pendant le confinement. Je n'ai pas connu ma mère. Il y a mon père qui était là-bas et ça m'a tourné entre nous. C'est pour ça que je suis parti de là-bas.
Et tu veux faire quoi après ta scolarité ici?
Bah, je compte de travailler après et fonder ma famille et voir mes enfants devant moi. C'est tout ce que je souhaite pour l'instant.
Quelles émotions t'as ressenties en partant de ton pays?
Je suis parti pour une cause, parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Je me ressentais tout seul dans ma vie. Je suis parti à cause de ça.
Et du coup, comment tu as fait pour arriver en France?
C'est à l'aide de mon oncle. C'est lui qui a organisé tout mon voyage jusqu'à là. De pays à pays jusqu'à arriver en Libye. Après, on a traversé la mer. Donc, c'est dans les petites Sosiaques. Il y avait eu plus de 28 morts. Nous, on avait fait 7 heures sur l'eau. Quand les sauvetages sont venus, quand ils ont jeté les gilets de sauvetage, ça commençait à basculer. Il y en a qui sont noyés dans l'eau et ils ont resté dans l'eau. On m'avait proposé de rester en Italie, mais ils avaient déjà du mal à comprendre la langue. Du coup, déjà, je parlais un petit peu en français. Je me suis dit, pourquoi pas venir en France et voilà, et continuer. On était au nombre de 10, 11 comme ça, dans les trains. Des fois, on vous attrape, on vous retourne encore en Italie.
Tu t'es fait attraper, toi?
Bah oui, bien sûr.
Combien de fois?
Et 3, 4, comme ça. Mais c'est pas trop loin.
Et alors, une fois que tu arrives à Orléans, tu fais quoi?
Bah après, j'ai demandé aux gens, et ils m'ont dirigé au conseil départemental. C'est qui m'ont pris en charge. Ouais.
Le Blue Sky M, battant pavillon moldave, est ramené à Gallipoli après avoir dérivé pendant des jours dans l'Adriatique, abandonné par son équipage. À bord, 800 migrants, dont 35 enfants, sans nourriture, sans eau potable ni couverture. Un mode opératoire qui tend visiblement à se répandre. De gros cargos pouvant transporter plusieurs centaines de personnes, déboursant des milliers d'euros pour monter à bord et un équipage qui disparaît subitement en pleine mer.
On se retrouve avec Gladys et Franck pour parler d'une interview qu'on a faite d'un rappeur orléanais qui s'appelle Demdi. Demdi, il a une particularité, c'est pour ça aussi qu'on l'a interviewé, hein, Gladys, c'est
oui,
parce
oui.
qu'il est d'ici.
Oui, il est d'Orléans-la-Source.
Vas-y, parle-nous un petit peu de lui, dis-nous ce que tu en sais. Comment on a eu l'idée d'interviewer Demdi?
J'ai entendu ce qu'il chante et notamment on l'a choisi vu son album caritatif à l'honneur de son ami qui est mort d'une leucémie. Du coup, tous les fonds qui vont sortir de cet album-là va être donné à l'hôpital. Donc, je pense, c'est ça, Franck?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est grâce à l'album, ils vont donner une contribution à la lutte contre la leucémie. Et son ami était rappeur aussi.
Ouais, et il y a quelques titres que c'est son ami qui avait chanté. Ils ont repris ses chansons et ils ont mis dans l'album, notamment avec sa sœur aussi.
Il est de la source, mais il est d'origine centrafricaine.
Oui, centrafricaine. Ouais,
ça aussi, ça. C'était un élément important. Quelqu'un qui venait d'ailleurs, mais qui en même temps était d'ici.
Ça permet d'avoir ce mélange de cultures.
Parce que toi, chez ça nous, te parle
Oui, moi, ça me parle, notamment, moi, ça me concerne, parce que chez moi, j'ai une éducation qui vient forcément de chez nous. Mais après.
Toi, c'est du Congo, c'est ça?
Ouais, moi, je suis d'origine congolais. Et quand on sort dehors, on trouve aussi une autre culture, d'autres personnes. Et faire le mix de tout ça, ça nous enrichit, personnellement. Et voilà, lui aussi, je pense que c'était le cas pour lui.
Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute l'interview que vous avez faite de Demdi. Oui. Et puis, on en reparle après.
Ouais.
J'ai choisi comme nom de scène Demdi parce que mon meilleur ami, quand on était plus petit, Kiram, avec lui on cherchait des noms d'artistes. Il a décidé de m'appeler Demdi parce que c'est la fin de mon prénom, qui est Nicodème, et le début de mon nom de famille, qui est Dibel. Donc ça fait Demdi, c'est tout simple.
Et vous êtes originaire de Orléans-la-Source. Qu'est-ce qui vous évoque ce quartier ?
C'est là où j'ai grandi. Ça m'évoque des souvenirs, ça m'évoque l'école, ça m'évoque les amis, la famille. Pour moi, c'est un peu une base, parce que je viens d'ici et ça m'évoque que du bonheur, la source.
Du bonheur. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on parle de la source, ils ne pensent pas forcément au bonheur. Ils pensent comme un quartier délaissé, malmené. Vous en pensez quoi de ça ?
C'est... un quartier un peu populaire et du coup un peu défavorisé et tout ce que tu as dit. Je pense que c'est dommage d'avoir cette vision-là parce qu'il y a plein de richesses dans ce quartier. Grosse richesse culturelle et voir que c'était un quartier populaire, un peu défavorisé, un peu mal vu. Ça a été un peu une source de motivation pour moi pour essayer de m'en sortir et de ne pas sombrer dans les mauvais côtés.
En général, on se dit que les rappeurs qui sont issus de ce quartier, en général, c'est des choses pas très bienveillantes ou des textes un peu crus ou des choses comme ça. Et est-ce que vous pensez que dans votre musique, à un moment ou un autre, ça va peut-être influencer ce que vous allez faire après, par la suite ?
Non, parce que je pense que je me suis déjà construit.
Dans les extraits que nous avons écoutés, vous parlez essentiellement d'amour et pas de drogue, violence, rue. Pourquoi ?
Parce que c'est pas ce que je vis et je préfère pas me créer un personnage ou ne pas être moi, donc j'essaie d'être le plus sincère possible et je pense que c'est comme ça qu'on fait les choses de la meilleure façon.
Est-ce que aujourd'hui t'arrives à vivre du rap comme plusieurs artistes?
Non, malheureusement, c'est un peu, ouais, c'est toujours un rêve. J'aimerais beaucoup vivre du rap, mais non, aujourd'hui je suis éducateur PJJ à côté du rap et ça me plaît aussi beaucoup parce que j'ai la formation pour, j'ai une licence en sociaux, j'ai un diplôme d'éduc et là je suis éduc PJJ mais je vais passer la formation d'éduc PJJ l'année prochaine.
C'est quoi le PJJ ?
C'est protection judiciaire de la jeunesse. C'est une structure du ministère de la Justice et moi je suis dans un UHC, c'est une unité éducative d'hébergement collectif, un foyer qui accueille des jeunes qui sont placés par la juge pour des faits de délinquance et que j'accompagne dans tout ce qui va être insertion scolaire ou formation, dans tout ce qui va être audience avec la justice, dans tout ce qui va être activité et dans tout ce qui va être vie quotidienne et famille aussi très important.
Et cette année, vous allez sortir votre album, qui s'intitule comment d'ailleurs ?
Kiram.
C'est le nom de votre ami, le nom de scène. Et votre ami est décédé en janvier dernier. De quoi parle cet album ?
De lui, principalement. Des morceaux qu'il a écrits et qu'on a repris, et des morceaux qu'on a fait nous-mêmes. Du coup, l'idée aussi, c'était d'associer de nombreuses couleurs artistiques parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la variété musicale, on va dire.
Les fonds vont être versés à l'hôpital Gustave Roussy à Paris. Pour quelle raison ?
C'est le premier centre de lutte contre le cancer et ils vont être dédiés à la recherche pour la leucémie, en fait, la maladie qu'il a eue.
Quels sont vos plaisirs et les influences que vous avez eues ?
Mes plaisirs, c'est de partager tout ça avec des personnes que j'apprécie. Mes influences, ça va être un peu son hip-hop. Ça va être un peu plus du rap américain, parce que j'adorais le flow des Américains quand j'étais petit. J'écoutais beaucoup de Eminem. Ça va être aussi des artistes français. J'aime bien Charles Aznavour.
Pour vous, c'est quoi la définition du rap ?
R comme rien, A comme A et P comme perdre. Rien à perdre. Prends ton stylo et écris.
Et maintenant, on va écouter Demdi avec l'étoile. Un morceau, un choix des élèves du lycée professionnel Paul Gauguin d'Orléans-la-Source.
Je ne sais pas par où commencer, comment parler d'amour quand je ne sens que la peine. Quand tu ressens du mal, je saigne. Quand je m'arrête, c'est toi qui freine. Je ne vois qu'un avenir en déclin, une partie de moi qui s'éteint. Mon frère, tu es parti au loin, une partie de moi qui se plaint.
Parce que j'aurai toujours du mal à l'entendre. J'entends ta voix me guider quand je me concentre. Sur terre ou au ciel, toujours ensemble. Pas besoin d'un regard pour se comprendre. Depuis ton départ, rien ne m'effraie. J'avance pour nos rêves désormais. Je finirai par ivre et borné. Mais ma vision s'est déformée. La lumière dans le noir me dit de garder espoir. Petit frère est une étoile. On va finir par le faire voir. Du mal à faire le vide après l'incendie. Tristesse, haine, s'en suivent. Mais comment vivre en paix quand même la justice n'est pas sensible.
Martin Luther, Malcolm X, Black Panther, Stan Smith t'as laissé une trace en nous comme le veille sur les tiens. Hein. Martin Luther, Malcolm X, Black Panther, Stan Smith t'as laissé une trace en nous comme le veille sur les tiens. Hein.
Je sais que tu veux que je m'en remette, mais j'ai pris du temps à trouver mon remède. Le crash a fait des dégâts, mais je m'en relève. Lumière intérieure me permet d'en renaître. Une page qui se tourne avec un soupir, un sourire. Personne ne pourra jamais désunir. Un lien éternel, même par l'avenir. Protecteur des tiens pour te définir. Exemple à jamais, je vais le garantir.
Martin Luther, Malcolm X, Black Panther, Stan Smith t'as laissé une trace en nous comme le veille sur les tiens. Hein. Martin Luther, Malcolm X, Black Panther, Stan Smith t'as laissé une trace en nous comme le veille sur les tiens. Hein.
Vous avez rencontré, pour Interclasse, un professeur d'éloquence. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre et pourquoi vous avez eu envie de le rencontrer aussi?
C'est un très beau parleur, une personne très ouverte d'esprit. Et quand il parle, vous êtes vraiment captivés. Franchement, ces journées-là, j'étais vraiment illuminé, je pourrais dire ça.
Illuminé, carrément.
Voilà.
Qu'est-ce qui t'a impressionné? L'éloquence. D'abord, qu'est-ce que c'est l'éloquence?
C'est le fait de savoir parler. C'est très important.
C'est un art, hein, on peut dire, ouais, l'art de savoir parler.
Oui, c'est un peu comme du théâtre, mais sans forcément jouer un rôle. Et ça devient un art de vivre. Grâce à ça, on peut être embauché. Il nous a donné un exemple. Il nous a dit que des fois, pour des entretiens d'embauche, il arrive en retard. Mais comme il sait parler, il est quand même pris. Parce que la parole, c'est très important. Le ton qu'il faut prendre, la posture et tout ce qui suit avec. Au début, il parlait un peu trop, on se disait, oh, vas-y,
ça va être comme d'habitude, il va parler. Après, à la fin, on va sortir, on va rien capter. Mais avec lui, c'était vraiment différent. On est sortis de là, on était vraiment tous étonnés, on était là, waouh. Donc c'est une personnalité que j'ai beaucoup admirée durant ce moment-là.
L'éloquence, la rhétorique, l'art de bien dire. Pour convaincre, il faut aussi maîtriser la dialectique. Une suite de raisonnements rigoureux destinés à emporter l'adhésion de l'interlocuteur et de l'auditoire. Car, en réalité, il n'y a que ça qui compte. Convaincre, avoir raison. La vérité, on s'en fout. Vous vous souvenez ? On va donc commencer par la base.
Ce que je fais n'est pas un métier à proprement dit aujourd'hui, c'est de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est moi-même qui ai fondé Discours. Discours qui est une structure qui enseigne l'art oratoire. Et pourquoi je le fais ? Parce qu'en gros, j'ai réalisé que la société, de manière générale, est composée de personnes qui sont frustrées car ils sont incompris. Car ils ont un problème de communication et d'être entendus. Moi-même, j'ai vécu cela. Le fait d'être dans une colère silencieuse mais constante qui fait que je me sens constamment frustré. Mais constamment, vraiment constamment. Je ne suis jamais content. La météo, on n'est jamais content de ce qui se passe à la télé. On n'est jamais content. En fait, on n'est jamais content. Le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur nous permet de pouvoir du coup extérioriser cette frustration. Le milieu théâtral m'a beaucoup aidé. Cela dit, par rapport à mes valeurs et par rapport à ma manière d'être, en fait, ma manière de vivre, parfois j'étais amené à toujours me justifier. Ça ne me mettait pas dans une position d'aisance, en fait. Je n'aimais pas le fait de justifier pourquoi je suis noir, pourquoi je ne fais pas ça, pourquoi. Donc forcément, en fait, à un moment, je me suis senti vraiment marginalisé. J'ai vu qu'il y avait des clubs d'éloquence. Puis je suis allé assister à la première séance. Ma licence, elle est à 90 euros. Il faut payer par chèque dans l'immédiat. Moi, je suis étudiant. Je ne vais pas payer. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Puisqu'en fait, au final, j'ai compris que le fait qu'ils imposent des frais comme ça, bah, y a que des personnes assez aisées et âgées. Donc, je ne vois même pas des gens qui me ressemblent. Donc, je quitte les clubs de l'éloquence. Et à un moment, je me dis, bah, faut que je fasse quelque chose. Et bah, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai fondé Discours. Et alors, Discours, c'est quoi ? C'est une association qui est accessible à tout le monde. Et en fait, tous les mardis, on met en place des ateliers de prise de parole en public. Quand on s'exprime bien, quand on parle bien, quand on pose les choses, ça valorise notre image. Pour une personne, et moi je le dis clairement, pour une personne qui est noire, qui est issue d'un milieu marginalisé, stigmatisé, tout ce qui en suit, c'est une vraie clé pour pouvoir ouvrir des portes. Qui dit parler veut dire quelque part le besoin d'être entendu. Parce que si on parle devant un mur, c'est pas la même chose que de parler devant une personne. Il y a eu des périodes où il y a eu des épisodes de ma vie, des petits moments où je pense que comme tout le monde, je me suis comporté comme une personne très timide, car j'étais intimidé. Il faut différencier l'attitude et la personnalité. La personnalité, c'est ce que je suis. Mon attitude, ça dépend de qui tu es. Et forcément, en fait, à ce moment-là, en gros, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Voilà. Vous en faites pas sans enregistrer, c'est enregistré. Vous avez toutes les punchlines ici. C'est le coffre-fort des punchlines. On va s'amuser. Il y en a qui sont timides parce qu'il y a des gens, en fait. En communication, il y a ce qu'on appelle les métaprogrammes. Alors, les métaprogrammes, je vous explique, en fait, ce sont des informations qui ont une influence sur notre manière d'interagir et de parler avec les gens. Il y a des personnes qui sont toujours dans la positivité. Genre, toujours, c'est bien, ouais, c'est trop bien, non. Tu présentes un projet, il va dire, ah, c'est trop bien, ça. Mais il va jamais t'aider. Il va dire, ah, mais c'est trop bien, ouais, je t'encourage, et toi. Hey, franchement, c'est bien, ça. Tu viens avec moi ? Ah, ouais, non, mais... Voilà, c'est ça. J'ai vécu parfois des moments de discrimination qui étaient très difficiles à vivre. Mais j'ai trouvé des explications. Pour moi, en fait, pour me réconforter, pour pouvoir avancer. Parce que j'ai un objectif. Et vous, quel est votre objectif ? Non, je ne parle pas qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Quel est votre objectif ?
Réussir dans la vie.
Réussir, ok. C'est quoi la réussite pour toi ? Ok, donc du coup, toi, c'est de trouver un bon travail. Bah, fais tout pour trouver un bon travail. Allez, je vous fais un dernier truc. En fait, on va faire un jeu. Vous connaissez les chiffres romains ?
Oui.
Okay.
Je suis sûr qu'il y a
quelqu'un
qui a menti, là.
Okay. Donc ça en chiffres romains c'est combien ?
C'est
9. Vous êtes bien d'accord que c'est 9 en chiffres romains ? Ok, moi je vais vous dire en 30 secondes, vous me transformez ça en 6. Et en fait, vous avez le droit à faire qu'une seule barre. Vous pouvez l'onduler, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, mais une seule barre.
Tu
18 secondes, t'as trouvé 18 secondes.
En fait, cette barre, on la prend, là, non
laquelle bah,
enfin, c'est ici, là. Tout court.
Ouais.
Bah
ouais.
Ah, en fait, regardez.
Hop là.
Attendez, attendez. Ça, c'est une seule barre, mais c'est ondulé. En fait, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est quoi? C'est que. Qu'on a des croyances.
Ben voilà, là il a.
Qu'on a des croyances, en fait, on se limite. Alors que si on prend du recul, bah allez, ça fait 6.
Alors maintenant, toi, tu sais comment on passe du 9 au 6. On a bien compris que tu savais, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Tu peux nous raconter?
On était là, on se posait des questions. Je me débrouille pas mal en maths, j'ai essayé de calculer, j'ai vu que c'était impossible.
En fait, il y avait une ruse.
Ah oui. Donc on s'est dit que comment il va faire. Et là, il s'est mis à rigoler. Il a juste eu à faire un S devant les deux. Ça faisait 6. Et du coup, on était... Ah, OK.
France Inter. Interclasse. Lycée Paul Gauguin à Orléans.
Alors maintenant, on va poursuivre avec un reportage qu'on a tourné il y a déjà quelques mois. On est allé rencontrer un historien à la maison Jeanne d'Arc. La question était la question des discriminations. Est-ce qu'une Jeanne d'Arc pourrait un jour être autre chose que catholique et blanche? Il se trouve que, il y a de ça quelques années, 2-3 ans, à Orléans, il y a eu une Jeanne d'Arc métisse. Ça a fait beaucoup parler. Alors, elle était catholique. Et la question que se sont posées les élèves et qu'ils ont posée à cet historien, c'est est-ce qu'il est possible, oui ou non, d'imaginer aujourd'hui une Jeanne d'Arc musulmane, arabe, asiatique? Et donc, on va écouter leur reportage.
On va partir du principe que Jeanne d'Arc représente la France. L'idée de représenter Jeanne d'Arc par une, pas seulement une métisse, mais une arabe, une noire, une asiatique, a été posée à Orléans il y a une vingtaine d'années. Et par un étudiant qui travaillait sur les fêtes de Jeanne d'Arc et qui est allé voir la commission qui choisissait la Jeanne d'Arc à l'époque, et leur dire, est-ce que vous envisagez un jour d'avoir une Jeanne d'Arc noire? Et ils ont dit non.
Pourquoi ils ont dit non?
Parce que ça leur paraissait illogique, impossible. Jeanne d'Arc, pour eux, était évidemment blanche. Alors, il faut voir aussi que Jeanne d'Arc, à partir du moment où elle a été canonisée en 1920, évidemment, elle est aussi le symbole d'une France catholique, bien pensante, enracinée dans son terroir,
blanche.
Et depuis fort longtemps, vous avez des ligues patriotiques, réactionnaires, d'extrême droite, qui utilisent le personnage de Jeanne d'Arc comme symbole, donc dans les années 1930. En 1940, après la débâcle, vous avez le régime de Vichy qui s'installe, qui est un régime antisémite, il va y avoir une chasse aux Juifs. C'est aussi un régime qui utilise Jeanne d'Arc. Ce qui fait que pendant des décennies, Jeanne d'Arc était un symbole des régimes, des sympathisants d'extrême droite. Or, ça n'a pas été toujours le cas, parce que dans les années 1840-1870, Jeanne d'Arc était une héroïne républicaine.
Comment arrive-t-on à cette Jeanne d'Arc noire?
Elle était métisse. Alors,
il y a 15 ans environ, les règles ont commencé à changer. Bon, il fallait que la jeune fille, généralement, soit catholique, mais il n'était pas demandé qu'elle soit forcément pratiquante. Il fallait qu'elle soit orléanaise, qu'elle soit née à Orléans, qu'elle vive à Orléans, qu'elle fasse ses études à Orléans et qu'elle s'occupe des autres. Mais petit à petit, on a surtout insisté sur le côté catholique, celle qui sera la plus active, la plus déterminée, la plus volontaire. Et il se trouve que, donc, il y a 2 ans, c'était...
Mathilde Hédé-Gamassou.
Alors Mathilde Hédé-Gamassou, elle est d'autant plus extraordinaire dans son genre que sa mère est polonaise. Donc elle est internationale. Son père est français, mais d'origine guinéenne, je crois, béninois. Elle est très catholique par sa mère et elle est venue ici, comme toutes les Jeanne d'Arc, enfin toutes les jeunes filles qui jouent le rôle de Jeanne d'Arc. Et je lui ai parlé de l'histoire de Jeanne d'Arc.
Quelle a été la réaction des Orléanais?
Il y a sans doute eu une certaine surprise, mais pour les raisons que j'ai déjà dites, c'est-à-dire que finalement, la question de la couleur avait déjà été posée. Ça s'est dans l'ensemble bien passé à Orléans. Il y a une autre raison, c'est que à Orléans, le Front National n'a jamais eu beaucoup de succès parce que les Orléanais ont toujours été assez choqués de voir que Jeanne d'Arc, la fille d'Orléans, leur Jeanne d'Arc, en quelque sorte, soit utilisée comme symbole par le Front National. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Orléanais ont été ravis d'avoir une Jeanne d'Arc métisse. Il semblerait que les réactions les plus virulentes soient venues de l'extérieur.
Est-ce que le critère de catholicité exclut de fait, malgré l'évolution qu'on voit qui s'est dessinée par le métissage, disons, entre guillemets, racial, est-ce que le critère de catholicité exclut, par exemple, le choix d'une Jeanne d'Arc française musulmane?
Apparemment, oui. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça fait partie des choix. C'est-à-dire que vous pouvez être arabe, mais catholique. Effectivement, il n'y a pas encore de Jeanne d'Arc juive ou musulmane au programme. C'est pour ça que ce sont souvent des jeunes filles qui sont à Sainte-Croix-Sainte-Verte, parce que c'est des écoles catholiques.
Polémique autour des commémorations de Jeanne d'Arc en France. Comme tous les ans, une jeune habitante d'Orléans est choisie pour incarner l'héroïne nationale lors des fêtes joanniques le 8 mai. Cette année, c'est une jeune lycéenne, métisse, et cela ne plaît pas à la droite identitaire. Des commentaires ont fleuri sur les réseaux sociaux. Les internautes dénoncent, je cite, « une idéologie multiculturaliste ». Pour eux, celle qui incarne Jeanne d'Arc doit nécessairement être blanche. La secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes a apporté son soutien à la jeune lycéenne. Certains tweets, clairement racistes, ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République d'Orléans.
Je pense que ça permet aussi à toutes les Orléanaises de pouvoir se sentir à leur place, en fait, de pouvoir défendre Orléans et de prendre la place. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être forcément blanche pour se considérer comme Jeanne d'Arc, en fait. Ou essayer de la représenter, voilà.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, Jeanne d'Arc, c'est plus vraiment une personne, c'est plutôt un symbole. C'est quelqu'un qui s'est battu pour son pays et pour sa ville. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas... à mon sens, enfin, qu'elle soit blanche, noire, arabe ou quoi que ce soit, d'où elle vienne, je trouve que c'est absolument pas dérangeant ni choquant. Peu importe qui fait Jeanne d'Arc, pour moi, ça reste Jeanne d'Arc et voilà, ça reste un symbole.
C'est encore de cette fille qui s'est surnommée la pucelle de Lorraine. Elle se prétend envoyée par Dieu. C'est charlatan. Dommage que le bois manque pour les brûler tous. Refusez de la recevoir, monseigneur. On ne sait pas qui c'est. Sait-on seulement si elle vient vraiment de Lorraine? Une messagère de Dieu n'est-elle pas capable d'écrire son patronyme?
Autrement, il y a raison, monseigneur. Elle dit entendre des voix. C'est peut-être une sorcière.
Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourrées dans la nuit. Et ton corps qui se tord, seulement pour me plaire. Mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires.
Il y a des bugs dans ma tête,
tes rêves imaginaires.
Il y a des bugs dans ma tête
quand j'écrase ma cigarette.
Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal.
Je manque d'application comme les GSM. T'as réparé le mal que j'avais laissé. T'es mille fois trop bonne pour que j'aie le seum. Mais là tu me contrôles et ça tu le sais. Tu continues à danser sur des hits sales. T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un bolos.
Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal.
Il y a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. À saigner pour la gloire de voir mon corps s'asseoir près d'eux. Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues. Mon odeur comme autel, les autres sont blasphèmes. Ici tout le monde déraille. Je
suis 100 fois trop, 100 fois trop bonne.
Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as payé
nos entrailles.
T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales.
Si tout le monde est high.
Tu continues à danser sur des hits sales.
T'es 100 fois trop bonne.
Tu continues à danser sur des hits sales.
T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un bolos.
Vous êtes sur France Inter, c'est Interclass au lycée Paul Gauguin à Orléans. Moi, c'est Valentin.
Moi c'est Sarah.
Et moi c'est Christelle.
Moi c'est Roméo.
Yeah.
Oh. Et dites-moi les copains, ça s'est passé comment votre confinement?
Franchement, il n'y avait rien à faire.
C'était beaucoup trop long.
Par contre, je sais pas vous, mais je trouve que les cours, on était un peu trop bombardés. Enfin, je sais pas, genre, est-ce que vous arriviez à suivre?
Non.
Non, mais c'était beaucoup
pas
trop
long.
Certains profs ont abusé des cours.
Non, franchement, c'est compliqué quand tu passes de cours à chez toi. Enfin, t'as pas la même ambiance, je suis désolé, mais chez moi, il y a toujours un truc pour me distraire.
C'est hyper galère.
T'es pas à fond dans l'élément, quoi.
Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles.
Franchement, moi je trouve que dans ce confinement, il y a eu du bon, mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de mauvais. Je sais pas, vous avez pensé quoi aussi des enfants qui ont été battus à ce moment-là?
Moi, ça m'a touchée, parce que c'est vrai que pendant le confinement, je pense qu'il y a des familles qui se sont retrouvées seules avec leurs enfants. Je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude, en fait, d'être autant avec leur famille. D'un coup, ils se retrouvent avec leurs enfants et je pense qu'ils les ont saoulés, en fait. Je pense qu'ils étaient insupportables. Du coup, je pense qu'il y a eu de la maltraitance, en fait. Et moi, je comprends pas, en fait. Enfin, si tu fais des enfants, c'est pas pour être... Enfin, c'est pas pour les maltraiter, en fait.
Puis même, c'est pas une raison. C'est pas parce qu'ils sont relous que tu vas les frapper.
C'est pas une raison.
Violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, négligence. Pour arrêter ça, agissez. Enfance en danger, dans le doute, appelez le 119.
J'ai entendu dire un truc.
Mais non.
Si. Alors, apparemment, il y en a qui pensent que ce serait pas juste un virus, que ce serait l'État ou la société ou je ne sais quoi. Ça aurait été prémédité, en fait.
Moi, je suis sûre, le virus, il a été fait dans un laboratoire. Je suis sûre.
Et toi, tu penses que la Terre est plate aussi, du
non,
coup,
non, mais je... mais c'est bizarre. Bizarrement, il y a un virus comme ça qui arrive, qui tue des milliers de personnes, et puis voilà.
Non, mais il y a plein de virus dans la nature.
Mais non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fait que ce virus, c'est sûr qu'il a été prémédité ou il a été fait volontairement ou j'en sais rien.
Ou alors c'est la planète qui se venge.
C'est trop compliqué. Il y a des études qui ont été faites.
On est d'accord quand
tu regardes ces vidéos et que tu vois que les mecs te disent que c'est trop compliqué de faire un virus comme ça. Le virus en lui-même est trop compliqué. Pour moi, il n'a pas été créé par l'être humain. Pour moi, c'est un truc qui sort de nulle part comme ça et qui s'est adapté à. Qui a muté en fait. Et voilà. Mais pour moi, ça n'a pas été créé.
Bah du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interclasse? Moi franchement, je trouve ça grave cool, c'était sympa à faire.
C'était cool, ouais.
Ouais, c'était sympa.
J'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait.
Je trouvais ça sympa comme sujet.
On a pu apprendre des choses, comme pour le reportage qu'on a fait dehors, les interviews. Se rendre compte qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne.
Merci en tout cas à France Inter de nous avoir pris pour cette interclasse. Franchement, c'était vraiment une très bonne expérience.
D'avoir donné l'opportunité.
Exactement, et aux professeurs aussi de nous avoir proposé de faire ça.
Interclasse à Orléans, production, rédaction en chef Éric Valmire, assisté de Fanny Léonore Crouzet.
Réalisation Lilian Allôme, prise de son Olivia Branger, Nicolas Mathias.
Programmation musicale Jean-Baptiste Audibert.
Équipe France Inter, Laurence Perron, Franck Ballanger et Philippe Magnier.
Équipe enseignant lycée, Priscilla Momessin, Aurélie Ayotte.